Le mardi 18 avril, nous entendîmes tonner le canon de Fort National. Les Arabes nous serraient de très près. Nous n'avions pu garder le redan de la porte du bureau arabe à cause de son étendue. Cette porte restait donc condamnée. Elle était en bois plein jusqu'à 1,5 mètre environ de hauteur, le dessus en lattage, et le génie avait fait construire derrière un mur en pierre sèche. Le redan de la porte de bougie nous resta jusqu'à la fin parce que le commandant Letellier s'était dépêché de faire construire en avant des épaulements et des retranchements où la sentinelle se trouvait à couvert. Comme artillerie, nous n'avions que des pièces à âme lisse, 2 obusiers de 15, 3 obusiers de 4 et 2 petits mortiers ordinairement appelés crapauds. Les Kabyles, voyant de loin que la porte du bureau arabe n'était pas gardée au dehors, espérèrent s'en rendre maîtres. Ils se mirent aussitôt à l'ouvrage, et dès la première nuit, en traçant leur chemin couvert, ils avaient fait d'assez forts remblais pour attirer l'attention du commandant. Ils poursuivirent leur travail les nuits suivantes avec la même ardeur. Le jour, c'était une fusillade continuelle. Ils tiraient dans la place au tir plongeant, puis reconnaissant qu'ils avaient eu tort de brûler le village européen avant de le piller, toutes les nuits, on ne les entendait plus que démolir les maisons pour en emporter les poutres, les fenêtres, les portes à moitié consumées et jusqu'aux tuiles. Quelquefois, ils n'étaient pas d'accord sur le partage. Alors les coups de bâton roulaient. Comme les colons de Tizi Ouzou avaient ensemencé les terrains vagues autour de la place, en vue d'en consacrer les récoltes à secourir les victimes de la guerre contre la Prusse, les blés, les orges, les fèves foisonnaient jusqu'au pied des remparts. Ces cultures ont beaucoup contrarié la défense. Les Arabes se glissaient là-dedans et poussaient l'audace jusqu'à venir la nuit au pied du mur, insulter grossièrement en français monsieur le curé, les chères sœurs, les gens mariés, nous menaçant tous de nous couper le cou dans 4 ou 5 jours et nous invitant à nous apprêter. Aller donc tirer dans la nuit noire sur des gens étendus dans les hautes herbes, c'était impossible. Tout cela n'aurait encore été que de la plaisanterie, sans la soif terrible qui s'approchait. La soif est ce que je connais de pire au monde. Nous souffrions déjà beaucoup avec notre litre et demi d'eau, dont 1/4 pour le café, 1/4 pour boire à la main, et le reste pour la soupe. C'était déjà fort quand on réduisit la ration à 1 litre par homme et celle des chevaux à 3 litres. Jamais tu ne pourras te faire l'idée d'une privation pareille. Je ne parle pas seulement des hommes, mais encore des animaux. Si tu avais vu nos bœufs errer dans la cour des prisons arabes et dans le Bordj, poussant des mugissements sourds qui ne sortaient qu'avec peine de leurs entrailles desséchées. Si tu les avais vus la tête basse, les yeux hors de la tête, les naseaux arides, aller ainsi comme de vieilles carcasses, tu aurais frémi. Leur chair, quand on les tuait, était plus rouge que du jambon. Et les moutons, les chèvres, il fallait les voir avaler jusqu'aux feuilles de papier. Et nous, nous tous, avec nos figures noires de crasse, car tu penses bien qu'on ne se lavait plus. Il fallait aussi nous voir. On avait pitié de soi-même en se regardant. On se sentait comme un masque de plâtre sur la face. Voilà ce qui s'appelle un supplice, et quelle rage cela vous donnait contre ceux qui vous réduisaient à cet état. Mais ils étaient plus de 100 contre 1. D'autres passaient par milliers hors de portée du canon. Ils gardaient toutes les routes, tous les défilés. Pendant la nuit, au milieu du grand silence, nous les entendions forger je ne sais quoi dans l'église de Tizi Ouzou. Le matin, lorsqu'ils regagnaient leur retranchement et se distribuaient les postes, le commandant Letellier ne perdait jamais l'occasion de leur envoyer quelques obus. Mais durant le jour, au moment où la grande chaleur du soleil pesait sur le Bordj, tout restait paisible. Ils avaient résolu les gueux de nous réduire par la soif et la famine. Je suis sûre que des Arabes ou d'autres traîtres enfermés avec nous dans la place les tenaient au courant de ce qui se passait. Cela parut clairement le 22 avril. Ce jour-là, quelques instants avant midi, toute la garnison fut prévenue qu'à midi juste aurait lieu une sortie pour détruire les ouvrages inquiétants des Kabyles à la porte du bureau arabe. On avait bien fait de ne nous prévenir qu'à la dernière minute, car, à peine l'ordre donné, l'ennemi savait notre intention. Il n'était pas prêt à nous recevoir, il lui fallait du temps pour appeler des renforts. Aussitôt, on annonça qu'un parlementaire kabyle se présentait à la porte de Bougie. Il tenait à la main un roseau garni au bout d'une feuille de papier écolier. « Qu'on le laisse entrer, » dit le commandant qui tout d'abord avait deviné la manœuvre. C'était un vieux kabyle à barbe grise faisant le saint homme, l'ami de la paix. « Qu'est-ce que tu veux ?» lui demanda le commandant au milieu des officiers. L'autre alors dit qu'il avait obtenu de ses compatriotes qu'avant de livrer l'assaut, on proposerait au commandant de capituler et que s'il y consentait, la garnison, les femmes et les enfants seraient conduits sains et saufs à Délices. « Tu te moques de moi ? » s'écria le commandant. « Je vais te montrer comment nous capitulons. » Puis s'adressant au brigadier de gendarmerie, « Vous allez me garder ce parlementaire à vue, » dit-il. « Nous reprendrons la conversation plus tard. » Et tout aussitôt, le sabre au côté, le revolver à la main, la longue vue sous le bras, il prit le commandement des troupes déjà rangées derrière la porte. Moi, j'étais avec 12 hommes sur le bastion du bureau arabe. Ignare, avec le même nombre, sur celui du génie. La porte se trouvait entre nous deux. Le lieutenant Kayat et le maréchal des logis Brissard, avec 15 chasseurs, devaient rester en réserve à la porte de sortie. Ignare et moi, les fusils dans les créneaux, nous devions protéger la retraite. Le maréchal des logis Herbs, avec un obusier de 15, envoyait des boîtes à mitraille sur le village pour empêcher les Arabes d'arriver au secours des leurs de ce côté. Les troupes composant la sortie étaient des chasseurs à pied et des mobilisés. Quelques soldats du train et la milice avec des pioches pour détruire les ouvrages des Kabyles. Un petit obusier de 4, manœuvré par 5 artilleurs et 1 brigadier, devait appuyer l'attaque. Naturellement, le garde du génie avait eu soin de faire enlever la muraille en pierre sèche construite contre la porte. Tout à coup, elle s'ouvrit et nos hommes s'élancèrent au pas de course. Les Kabyles, dans leurs ouvrages, n'étaient pas à plus de 20 mètres. Aussi longtemps que je vivrais, j'aurais ce spectacle sous les yeux. « Aïe, aou, aou !» criaient nos soldats. À 6 pas en avant des premiers, courait Monsieur Goujon, l'interprète. Il tenait son fusil en joue et tua le premier arabe qui se levait de la tranchée. Je le vis ensuite sauter dans les chemins couverts. Sa crosse en l'air ne faisait que monter et s'abattre. Le capitaine Truchy le suivait de près. Puis tous les chasseurs à pied, la baïonnette en avant. C'étaient des cris, des hurlements de rage sans fin, là, devant nous, sous les créneaux, des malédictions à nous faire dresser les cheveux sur la tête. Les Arabes, après avoir soutenu leur rage une minute, lâchèrent pied. Leurs blessés, se traînant à quelques pas, finissaient par tomber. Ce fut même, quelques jours après, la cause d'une affection épouvantable. L'un de ces hommes était tombé à quelques pas du redan, il pourrit sur place parce que ni les Arabes ni nous ne pouvions l'enlever. Les chiens et les chacals le dévorèrent à notre vue, se disputant ses lambeaux et les traînant de tous côtés. Mais pour en revenir à la sortie, au bout de quelques instants, du haut des créneaux, nous vîmes arriver une véritable avalanche d'Arabes. Ils en venaient par milliers malgré la mitraille. On aurait dit qu'ils sortaient de dessous terre. Notre fusillade, dont chaque coup portait dans la masse, semblait même exciter leur fureur. Le commandant s'en aperçut. Il donna le signal de la retraite. Tout rentra précipitamment et la porte se referma. La milice et les soldats du train avaient renversé les épaulements de leur chemin couvert. Le but principal de la sortie était atteint, mais tout le restant de ce jour et la nuit suivante, personne ne ferma l'œil.